Gloire à notre Dieu, notre Père, notre Dieu puissant, qui nous a prêté vie pour être là aujourd'hui. Et nous lui rendons encore grâce pour sa parole et pour le privilège qu'il me donne encore de vous l'apporter aujourd'hui. Donc nous continuons dans le livre d'Osée et nous allons lire le chapitre 11 aujourd'hui. Et ça sera l'objet de ma prédication. Je vais dire ce matin, mais cet après-midi. Voilà. Donc nous allons lire ensemble dans Osée, chapitre 11, les 11 versets. Lisons pour la gloire de notre Seigneur. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi, on les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu. Et non pas un homme, je suis le saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer. Il accourant de l'Égypte comme un oiseau et du pays d'Assyrie comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. J'ai intitulé ce message « L'amour fidèle de Dieu envers un peuple infidèle ». L'amour fidèle de Dieu envers un peuple, en effet, qui a toujours était infidèle à son Dieu. Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu dans ce chapitre, nous approchons de ce que certains théologiens ont appelé le chapitre le plus tendre de l'Ancien Testament. Bon, tout dépendamment, le plus tendre. C'est vrai qu'il y a d'autres parties, mais vous allez le voir par la suite qu'il y a, on voit une certaine émotion dans ce que dit Dieu pour son peuple. Ici, c'est le cœur de Dieu qui nous est révélé, non pas dans des concepts qui sont abstraits, mais à travers l'image bouleversante d'un père qui aime son enfant rebelle, d'un enfant qui s'éloigne de lui, d'un enfant qui méprise son amour, mais que Dieu, dans sa fidélité, refuse d'abandonner. Ici, Dieu exprime le plus ouvertement son amour, mais un amour blessé et pourtant indestructible pour son peuple. Ce texte est d'une importance capitale pour notre foi et notre compréhension de Dieu. Il répond à deux questions essentielles. La première, que fait Dieu lorsqu'il est trahi par son peuple ? Que fait Dieu lorsqu'il est trahi par son peuple? Deuxième question, son amour pour ses élus peut-il échouer face à leur infidélité? Est-ce que son amour inconditionnel peut-il échouer ou ne pas avoir d'impact dans la vie de ses enfants qui sont rebelles? À travers ce texte, nous allons découvrir que Dieu est à la fois parfaitement saint et infiniment miséricordieux. Il hait le péché, mais aime son peuple d'un amour éternel et d'un amour qui est souverain. Cette tension entre la justice de Dieu qui exige le châtiment du péché et son amour fidèle qui veut sauver son peuple est au centre de ce chapitre 11 d'Osée. Elle annonce déjà la seule solution possible, c'est-à-dire le sacrifice substitutif de Jésus-Christ, où la justice et l'amour de Dieu se rencontrent pleinement. Et on peut dire aussi que ce message n'est pas qu'historique, mais il est profondément actuel de nos jours. Car nous aussi, nous avons tendance à délaisser celui qui nous a aimés, à suivre nos propres idoles modernes, qu'elles soient matérielles, affectives, professionnelles, et à oublier celui qui, par grâce, nous a appelés à la vie. Ce passage nous révèle nos infidélités. Et il est un appel du Dieu vivant qui aujourd'hui encore rugit comme un lion pour rappeler ses enfants à lui. Et donc Osée 11, c'est notre histoire, la mienne aussi, toute notre histoire que nous retrouvons dans cette histoire, dans ce livre d'Osée. C'est-à-dire l'histoire d'un Dieu qui aime, d'un peuple qui s'égare et d'une grâce qui sauve malgré tout. Et donc, je vais développer trois points. Le premier point, les quatre premiers versets, l'amour électif de Dieu pour son peuple, là où nous verrons que le fondement de notre relation avec Dieu n'est pas dans notre mérite, ni dans ce que nous avons fait, mais dans son choix souverain et son amour éternel. Mon deuxième point, donc des versets 5 à 7, où nous parlerons de l'infidélité persistante d'Israël et le jugement mérité. Et enfin, le troisième point, l'amour souverain de Dieu qui triomphe de sa colère, des versets 8 au verset 11. Donc mon premier point, l'amour électif de Dieu pour son peuple. Des versets 1 au verset 4. Lorsque nous abordons les premiers versets ici, de ce chapitre, nous sommes directement confrontés à une histoire d'amour qui a toujours existé. D'un amour originel, on peut dire, ou d'un amour fondé non sur le mérite, mais sur l'élection souveraine et la grâce gratuite de Dieu. Dieu déclare par la bouche du prophète au verset 1, « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Ici, l'Éternel rappelle le moment où il a pris Israël pour être son peuple. Non, parce qu'Israël était grand, puissant, ou vertueux. Israël n'était pas fin, n'était pas gentil, n'était pas beau gosse, comme on dit. Non, c'était pas par ses mérites. Comme le rappelle Deutéronome 7, des versets 7 à 8, nous lisons Deutéronome chapitre 7, les versets 7 à 8. « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. » Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Et au verset 8, « Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. » Dieu choisit librement, sans contrainte extérieure, selon son propre dessein de grâce. Et Jean Calvin commente ce passage ainsi. Il montre Dieu, il montre que son amour n'est point né d'un mérite ou d'un attrait qui fut en Israël, mais qu'il procède uniquement de son bon plaisir. Et ce verset 1 est également une déclaration christologique majeure. Car Matthieu, dans son évangile, dans Matthieu chapitre 2, verset 15, applique ce verset à Jésus-Christ, où il dit aussi « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Christ est ainsi présenté comme le véritable Israël, le fils parfaitement obéissant, accomplissant en sa personne ce qu'Israël ancien a échoué à réaliser, parce qu'il a obéi au Père. Le salut du peuple de Dieu repose dès le commencement, non sur les performances humaines, mais sur l'élection divine et sur la personne de Christ. Nous lisons dans notre confession de foi au chapitre 3, paragraphe 5, sur les décrets de Dieu. Chapitre 3, paragraphe 5. Ceux des êtres humains que Dieu a prédestinés à la vie, il les a choisis en Christ, pour la gloire éternelle, avant la fondation du monde, selon son dessein éternel et immuable, et le conseil secret et le bon plaisir de sa volonté. Il les a choisis par la seule pure grâce et son amour, sans qu'il n'y ait rien dans la créature comme condition ou cause qui le conduirait à ainsi faire. Parce qu'une élection conditionnelle, rendrait les décrets de Dieu dépendants des événements temporels. Ce qui est radicalement impossible pour que les décrets soient éternels. La cause de l'élection ne peut d'aucune façon être dans l'homme. Elle doit par nécessité être en Dieu. Seule l'élection inconditionnelle explique la raison ultime de notre foi. Dieu ne nous a pas élus pour que nous allions croire, mais nous croyons parce que Dieu nous a élus. Il y a bien d'autres causes secondes qui expliquent comment nous en sommes venus à croire et à recevoir le salut. Mais la cause première, qui n'est causée par aucune cause, ne peut être attribuée qu'à la grâce, la libre grâce de Dieu manifestée dans son décret. Les versets suivants développent cette image avec une douceur bouleversante. Au verset 3, nous lisons « C'est moi qui avais appris à marcher à Éphraïm. Je le soutenais de mes bras et ils n'ont pas vu que je les guérissais. C'est moi qui avais pris qui avait appris à marcher à Éphraïm. Je le soutenais de mes bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. » Vous voyez un peu cette gradation dans le fait d'apprendre à un enfant à marcher, de le soutenir et de le guérir. C'est un père qui peut faire ça. Un père aimant, un père d'un amour inconditionnel. Le langage ici est celui d'un père apprenant à marcher à son petit enfant. Le Dieu souverain, tout-puissant, se présente comme celui qui se baisse vers sa créature, qui la soutient, qui prend soin d'elle, mais avec une affection particulière. Dieu s'est comporté avec Israël comme un père avec son fils qu'il chérit et qu'il porte. Quelle image de grâce! Dieu n'agit pas envers son peuple comme un chef distant, mais comme un père proche et tendre. Et pourtant, quelle fut la réponse d'Israël ? Quelle fut la réponse d'Israël ? Nous lisons verset 2, mais ils se sont éloignés de ce qui les appelait. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'était ça la réponse d'Israël. Ce peuple, bien qu'aimé, bien que porté, bien que guéri, refuse de reconnaître son bienfaiteur. Ce peuple rejette son amour pour se rapprocher de ses idoles. Le contraste ici est saisissant. Dieu, par ses prophètes, n'a cessé de rappeler son peuple à la fidélité. Mais celui-ci s'est obstinément, volontairement détourné. Le cœur du père est rejeté par l'enfant qu'il a élevé avec tant de soin. Dieu se décrit comme un père qui enseigne les premiers pas à son enfant. L'image est extraordinairement intime ici. Dieu s'abaisse, il soutient, élève, nourrit, soigne, mais l'enfant ne comprend ni ne reconnaît tout ce que son père fait pour lui. Le mot guérissait ici au verset 3, évoque ici non seulement la guérison physique, mais aussi une restauration morale et spirituelle. Que Dieu opérait discrètement, invisiblement, dans sa fidélité paternelle envers son peuple. Combien de fois avons-nous reçu la main de Dieu? Avons-nous reçu de la main de Dieu des bénédictions, des délivrances, des soins paternels? Et pourtant, dans notre orgueil, dans notre indifférence, nous n'avons pas su attribuer ces bienfaits à celui qui en est la source. Il est si facile de bénéficier des bontés de Dieu sans reconnaître sa main, de marcher par ses propres forces sans lui rendre gloire, ou de vivre dans son monde sans pour autant honorer sa présence. Et le verset 4 poursuit: je l'ai tiré avec des liens d'amitié, d'humanité plutôt, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche et je leur présentais de la nourriture. Ici encore, le langage est celui d'un père tendre, qui non seulement guide, mais allège les fardeaux et pourvoit aux besoins de ses enfants. L'expression « lien d'humanité » évoque une gouvernance pleine de douceur et non de contraintes brutales. Lien d'humanité. Dieu agit non pas en force coercitive, c'est pas comme s'il obligeait les gens. Il n'y avait pas de contrainte à ce qu'il prenne soin de son peuple. Mais c'était par sa bonté, sa tendre bonté qu'il prenait soin de son peuple. Et ce principe trouve son écho dans le Nouveau Testament, en Romains 2, verset 4, où nous lisons: « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» La bonté de Dieu, frères et sœurs, devrait nous pousser à la repentance. Parce que Dieu est infiniment bon avec nous. Dans nos vies aussi, Dieu nous attire encore par sa bonté. Combien de fois a-t-il apaisé nos craintes? Combien de fois a-t-il apaisé nos craintes? Allégé nos fardeaux, pourvu à nos besoins matériels et spirituels? Même quand nous étions indifférents, sa main n'a cessé de nous soutenir. Cette fidélité de Dieu doit nous conduire à une repentance et à une adoration reconnaissante. Nous devons nous soutenir, nous devons nous souvenir de cet amour historique et de cette élection divine et lui rendre grâce. Et reconnaître avec humilité que nous aussi, nous sommes souvent ce peuple qui bénéficie sans comprendre notre Dieu. Et nous sommes aussi ce peuple qui s'éloigne de son Père, de son Dieu, sans raison. Sans raison. Mais ce même Père nous attire encore aujourd'hui par des liens d'amour et par sa parole vivante. Amen. Mon deuxième point, l'infidélité persistante d'Israël et le jugement mérité, des versets 5 au verset 7. Donc après savoir développé l'amour tendre et émouvant d'un père aimant et bienveillant envers son enfant dans les quatre premiers versets, ici Osée prend un tournant douloureux mais aussi grave. Car face à cet amour constant, le peuple répond par l'ingratitude et à une rébellion obstinée vis-à-vis de son père. Dieu déclare au verset 5, « Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. » Ici, le Seigneur prononce un jugement solennel. Israël ne retournera pas littéralement en Égypte, comme certains l'avaient souhaité, en méprisant la grâce de Dieu, mais ils tomberont sous la domination d'une puissance étrangers, la Syrie, qui les amènera en captivité. Cette déportation sera le châtiment de leur obstination à refuser à se repentir et à revenir auprès de leur Dieu. Jean Calvin commente avec justesse que ce n'est point par ignorance mais par une ingratitude volontaire que le peuple a trahi son Dieu. Le péché ici dénoncé n'est pas un simple écart, mais un mépris délibéré de la grâce. C'est un mépris délibéré de la grâce. Le problème n'est pas que le peuple ignorait l'amour de Dieu, mais qu'il a consciemment rejeté l'amour de Dieu. Malgré les soins paternels, malgré les délivrances et les appels répétés, Israël a persisté dans ses idoles et a persisté aussi dans son orgueil. La désobéissance persistante mène à la domination païenne. Dieu, dans son amour offensé, employera les nations pour discipliner son peuple. C'est ce qui se passe ici, avec la Syrie. Et on voit les mêmes scénarios en Deutéronome 28, verset 36 et 2 Rois 17, verset 6, où Dieu discipline son peuple de cette manière où il est sous l'emprise de nations étrangères et de nations païennes. Et ce jugement est fondé sur une cause claire que nous voyons au verset 5, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Et le mot hébreu traduit par revenir est le terme classique de la repentance. Dieu ne condamne pas un peuple qui est faible, mais un peuple volontairement endurci, qui rejette l'appel passion du Seigneur. Leur problème n'est pas une ignorance passive, mais c'est une résistance active à l'appel de leur Seigneur. Comme l'écrit John Gill, ils n'ont pas simplement oublié Dieu par négligence, mais ils ont rejeté son appel avec mépris. Ce refus n'était pas accidentel. Pas accidentel, mais c'était volontaire. Ils aimaient leur péché plus que leur Dieu. Ils aimaient leur péché. Ils aimaient vivre dans leur péché. Ils faisaient abstraction des soins que leur avait donné le Dieu de l'Alliance. Ils préféraient offrir des sacrifices au Baal. Le verset 2 disait déjà, mais ils se sont éloignés de ce qui les appelait. Et au verset 7 ici, Dieu constate avec douleur, mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. L'expression ici, enclin à s'éloigner, indique une disposition naturelle et continue à fuir Dieu. C'est naturel. Et même ça, c'est en nous. En fait, on va en parler. Et c'est la manifestation de la dépravation totale du cœur. C'est que nous sommes dépravés du moment où nous sommes loin de Dieu. Nous avons cette inclinaison à fuir naturellement Dieu et de ne pas aimer les choses de Dieu. Même quand Dieu appelle avec amour et patience, l'homme laissé à lui-même choisit ses idoles. Le peuple d'Israël a préféré les Baals, les faux dieux de Canaan, aux soins de l'Éternel. L'idolâtrie, hier comme aujourd'hui, consiste à donner la première place dans notre cœur, nos priorités et nos affections à autre chose que Dieu. Et le jugement ici qu'annonce Dieu pour Israël n'est pas arbitraire. Pas du tout. Il est la conséquence logique de l'infidélité persistante de ce peuple. L'Assyrien n'est pas seulement un instrument ici politique. Il est un instrument de la justice divine. Dieu agit dans l'histoire pour punir le péché de son peuple et l'appeler à la repentance. Dieu, dans sa sainteté, ne peut tolérer le péché indéfiniment. Sa patience a des limites et lorsque son peuple persiste dans la rébellion, le châtiment devient inévitable. Et le verset 6 le dit clairement. Nous lisons, l'épée fondra sur leur ville, exterminera, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. L'épée, ici, est l'image d'un jugement militaire. Les villes fortifiées d'Israël, cet orgueil de leur autonomie, seront ravagées. Et le mot hébreu traduit par fondra peut aussi se lire comme tourmenté, qu'ils vont être tourmentés. Donc ça invoque un châtiment intérieur comme extérieur. Ils vivront des tourments. Les soutiens ici, on peut parler de conseillers, selon des traductions, désignent probablement les chefs politiques ou religieux qui les ont dupés, qui les ont séduits et qui leur ont donné de faux espoirs. Enfin, Dieu précise que ce désastre vient à cause de leur dessein, de leur projet. C'est-à-dire de leur projet autonome, des alliances politiques qu'ils ont voulu faire, comme on l'a vu dans les chapitres 7 et chapitre 8. C'est-à-dire aussi leur plan sans consultation divine. Ils se sont reposés uniquement sur leur propre force, sur leur propre, soi-disant, intelligence, sans pour autant consulter Dieu. Qu'est-ce que nous lisons dans Proverbe 14, verset 12 ? Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. L'homme qui conçoit ses voies sans Dieu est toujours conduit à sa propre ruine. La responsabilité de ce peuple est totale. Ce sont leurs desseins, c'est-à-dire leur choix délibéré, qui attirent le jugement. Ce constat prophétique est d'actualité. Car notre époque aussi est marquée par une idolâtrie qui peut se présenter sous différentes formes. On l'a déjà vu. Les Baals contemporains ne sont plus des statues en bois ou en pierre, mais ils sont bien présents dans nos cœurs. Très présents dans nos cœurs. Ça peut être le divertissement permanent qui anesthésie notre conscience spirituelle. Le culte de soi ou bien du bien-être personnel érigé en norme ultime. Le culte de l'image et de l'approbation sociale. Et l'Église elle-même n'est pas épargnée aussi. Trop souvent, nos cœurs sont partagés, nos priorités désordonnées et nous cédons aux séductions subtiles de ce siècle. Il nous faut donc entendre le message comme un avertissement adressé aussi à nous. Dieu appelle son peuple à la repentance sincère et à une fidélité totale. Il n'existe pas de neutralité spirituelle. Soit nous marchons avec Dieu dans la soumission à sa parole, soit nous errons vers des idoles, même sous des formes sophistiquées et socialement acceptables. Il n'y a pas un juste milieu. Soit nous marchons avec Dieu et nous nous soumettons à sa parole. Soit, comme on peut dire, nous sommes contre Dieu et nous suivons nos idoles et nous vivons comme nous voulons dans le péché, avec nos propres desseins. Ce passage nous rappelle solennellement que la justice de Dieu est réelle. Il ne laissera pas impuni ceux qui méprisent sa grâce. Le jugement qui s'est abattu sur Israël par la Syrie est un avertissement prophétique pour toutes les générations, pour tous les peuples. Pour nous aussi. Mais souvenons-nous aussi que ce même Dieu est riche en miséricorde. Ce Dieu est riche en miséricorde. Et c'est ce que nous allons voir dans mon troisième point, l'amour souverain de Dieu qui triomphe de sa colère. Des versets 8 au verset 11. Et donc, après avoir exposé la fidélité historique de Dieu et cette infidélité persistante de ce peuple d'Israël, Osée ici atteint son sommet, on peut dire, théologique et émotionnel. Nous entrons dans l'intimité ici du cœur de Dieu. Dans ces versets, nous découvrons la tension apparente entre la justice légitime de Dieu et son amour fidèle pour son peuple. Le verset 8 commence par une question déchirante. Que ferai-je de toi, Éphraïm ? Que ferai-je de toi, Éphraïm ? Dois-je te livrer, Israël ? Te traiterai-je comme Adma ? Te rendrai-je semblable à Tseboïm ? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Est-ce que vous imaginez un peu Dieu ému en regardant un enfant rebelle, infidèle? C'est l'image que nous avons ici. Dieu exprime ici la douleur divine devant la rébellion du peuple qu'il aime. Ce n'est pas l'expression d'un Dieu hésitant ou faible, mais d'un Dieu qui agit dans la plénitude de ses perfections. Il est à la fois saint, mais il est aussi à la fois compatissant. Et cette déclaration du Seigneur manifeste à la fois sa sainte justice et sa paternelle compassion. Le cœur de Dieu est ému, bouleversé. Le texte hébreu évoque des entrailles qui se retournent, un amour qui ne peut se résoudre à abandonner son peuple. Et Dieu poursuit au verset 9. « Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. » Et ici, c'est un verset clé. Verset clé, non seulement de ce chapitre, mais de toute la révélation biblique. Dieu rappelle ici qu'il n'agit pas comme un homme impulsif ou vindicatif, mais selon sa nature divine. Dieu punit le péché de ses élus, mais on limite la mesure et on dirige les faits selon sa grâce et son dessein de salut. Parce qu'il est Dieu, il peut exercer une justice parfaite tout en déployant une grâce souveraine. Ce passage est une préfiguration du mystère de la croix, où la justice de Dieu sera pleinement satisfaite et son amour parfaitement manifesté. En effet, cette tension entre colère méritée et amour retenu, parce qu'on peut dire qu'il a retenu, il retient son amour, ne pourra être résolu que dans l'œuvre de Christ. Le véritable Fils d'Israël qui portera la colère divine à la place des pécheurs et manifestera ainsi la fidélité de Dieu à son alliance. Et au verset 10 et 11, le Seigneur annonce son plan de rédemption. Nous lisons, « Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira, et les enfants accourant de la mer, ils accourant de l'Égypte comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. » L'image du rugissement du lion évoque ici la prédication puissante de l'Évangile, qui depuis la venue du Messie appelle les élus dispersés parmi toutes les nations à revenir à Dieu, à se repentir. Jean Calvin l'exprime ainsi. Ce rugissement est la proclamation publique de l'Évangile, par laquelle le Christ rassemble son peuple éparpillé aux extrémités de la terre. Donc de la Syrie, de l'Égypte, de l'Occident et des extrémités de la terre, les fils spirituels d'Abraham, qu'ils soient juifs ou païens, répondront à l'appel irrésistible de la grâce. L'Église aujourd'hui est ce peuple rassemblé par la voix du Christ. Chaque fois que l'Évangile est fidèlement proclamé, le lion de Juda rugit. Et les élus entendent cet appel et viennent à lui. La mission de l'Église consiste à faire entendre la voix de Christ au monde, car c'est par elle que Dieu attire les hommes à lui. La mission de l'Église n'est pas d'aller en croisade avec les non-croyants, mais c'est d'annoncer l'Évangile. Et c'est lui seul qui va attirer son peuple. Cela nous engage, frères et sœurs, à être des témoins fidèles, car nous sommes les instruments par lesquels cette voix résonne dans notre génération. Enfin, notons que ce retour n'est pas le fruit d'un simple changement d'humeur du peuple. Non, mais c'est de l'œuvre souveraine de Dieu. C'est Dieu qui rugit. C'est Dieu qui attire. Et c'est Dieu qui ramène à lui. Et donc, Osée 11 préfigure ici, en bon réformé, la doctrine de la grâce irrésistible. Ce que Dieu décide dans son amour, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Parce que ses élus reviendront à lui. C'est ce qui nous donne aujourd'hui une assurance indéfectible. Nous qui avons été autrefois idolâtres et ingrats, nous avons été rappelés par la voix du Christ. Et rien ne pourra nous séparer de son amour. Romains 8, verset 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Les versets 8 et 11 à 11 sont un chef-d'œuvre de la révélation de Dieu. Ils nous montrent que sa justice est réelle, mais que son amour triomphe de sa colère pour ses élus. Son amour triomphe de sa colère pour ses élus. Et cet amour trouve son accomplissement suprême en Jésus-Christ. Le véritable Fils appelé hors d'Égypte, qui a porté notre châtiment et rugit encore aujourd'hui pour rassembler son peuple. Pour finir, en parcourant ce chapitre, nous avons entendu quelque chose de rare et de bouleversant, la confession du cœur de Dieu lui-même. Ce n'est pas seulement une leçon d'histoire d'Israël, mais un miroir de notre propre condition spirituelle et un témoignage de l'amour indestructible de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu nous a aimés sans que nous l'ayons mérité. Il nous a choisis par grâce. Il nous a appris à marcher. Il nous a soutenus dans l'affliction et aussi il a pourvu à nos besoins. Tout ce que nous sommes et possédons spirituellement vient de sa main bienveillante. Comme Israël, nous avons trop souvent méprisé les soins de Dieu. Nous avons poursuivi nos idoles, cherché notre sécurité et notre bonheur ailleurs qu'en Dieu. Et ce péché mérite la juste colère divine. Dieu ne tolère pas indéfiniment le mépris de sa grâce. Mais parce qu'il est un Dieu et non un homme, son amour fidèle l'emporte sur sa colère. Il retient sa main, il rugit comme un lion par l'évangile et rassemble son peuple dispersé. Ce salut est accompli parfaitement en Jésus-Christ, qui a porté pour nous la colère divine et aussi nous a réconciliés avec le Père. Le lion de Juda rugit encore aujourd'hui. Il appelle son peuple à revenir, à se détourner de ses idoles et à s'attacher à lui seul. Ne restons pas sourds à cette voix. Que chacun examine son cœur devant Dieu et réponde avec foi, avec reconnaissance et avec obéissance. Car le même Dieu a poursuivi Israël d'un amour inlassable. C'est le même Dieu qui nous aime, qui nous appelle encore aujourd'hui. Que personne parmi nous ne s'endurcisse. Marchons avec lui. Attachons-nous à sa parole. Et que cette parole produise en nous crainte, foi et gratitude. Amen. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, notre tendre Père, nous te bénissons et te rendons gloire pour la richesse de ta parole, Seigneur. Merci Seigneur pour ce passage, pour ce message qui nous rappelle ton amour éternel envers ton peuple. cet amour qui ne change pas malgré nos égarements, malgré nos rébellions et malgré notre péché. Tu as aimé Israël dès son enfance. Tu l'as appelé hors d'Égypte et malgré ses détours et son idolâtrie, tu l'as secouru. Ton cœur s'est ému de compassion. Nous te remercions, Éternel, pour ton amour qui ne se lasse pas de nous, pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin, et pour cette fidélité parfaite manifestée pleinement en Jésus-Christ, le véritable Israël, celui en qui nous avons été délivrés de notre esclavage du péché et conduits à une vie éternelle. Seigneur notre Dieu, enseigne-nous à marcher dans tes voies. Donne-nous de craindre ton nom, de te chercher de tout notre cœur et de te servir fidèlement dans l'humilité et dans l'obéissance. Seigneur, que cette prédication ne demeure pas lettre morte dans nos âmes, mais qu'elle porte du fruit en nous et nous ramène à la repentance et en affermissant notre foi en ton Fils bien-aimé. Nous te prions aussi pour ton Église, Seigneur. Préserve-la de l'infidélité, des compromis et de la tiédeur spirituelle. Répands sur elle ton Esprit éternel, ton Esprit de grâce, ton Esprit d'amour. Fais-la vivre de ta parole et attache chaque croyant à Christ, le bon berger, qui nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous. Nous t'adorons, notre Dieu, pour l'expérience que tu es pour nous. Merci pour ta fidélité, pour tes promesses. À toi, le Dieu trois fois saint, sois honneur, louange et gloire, dès maintenant et à jamais, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.